Dans la tourmente actuelle qui souffle sur notre monde, un peu beaucoup, hein, ça vient un peu beaucoup du sud de la frontière, pas facile de se retrouver. Historien, sociologue, écrivain et professeur émérite de l'Université du Québec à Chicoutimi, Gérard Bouchard a également co-présidé la célèbre commission Bouchard-Taylor sur les accommodements raisonnables en 2007-2008. Son plus récent recueil Vision du Québec réunit plusieurs de ses textes qui sont parus dans Le Devoir de 2002 à 2024. Une cinquantaine d'articles sélectionnés qui dressent un portrait de la société québécoise. Bonjour, M. Bouchard.
Ouais, bonjour, ça va bien?
Ça va très bien. On est très content de vous recevoir à l'émission aujourd'hui. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais on est pas mal enseveli ici dans le sud du Québec, hein?
Oui, mais ça ressemble pas mal à chez vous, là.
D'accord. Alors, j'ai lu avec... je lis vos chroniques régulièrement dans Le Devoir, mais c'est intéressant de voir comment ça a été regroupé dans ce recueil. Et vous avez fait des sections, dont une qui est consacrée aux valeurs québécoises. Puis je vais le dire d'emblée, une expression qui est quand même galvaudée, me semble, beaucoup dans les médias pour des fins politiques. Qu'en est-il vraiment de ces valeurs québécoises?
Ouais, ben moi, ce que j'en ai dit, là, vous avez peut-être vu dans les textes,
ouais.
Je pense pas qu'il y ait une crise des valeurs au Québec, parce que quand même, il y a des valeurs qui se portent plutôt bien. La démocratie, la laïcité, l'égalité homme-femme, le pluralisme, quand même, le respect des droits, c'est toutes des valeurs fondamentales qui se portent pas mal chez nous. Moi, ce que j'ajoute, puis qui est quand même très important, c'est que notre société n'est pas animée par ce que j'appelle une ferveur. Ferveur, c'est un enthousiasme très répandu qui mobilise une société autour d'un objectif, d'un idéal, d'un rêve collectif, on peut l'appeler comme on veut, mais qui mobilise une société, puis qui fait en sorte que cet objectif-là, cet idéal, est approprié par la plupart des citoyens. On a vu ça durant la Révolution tranquille, bien sûr, et ça s'est produit une couple de fois aussi dans notre histoire, à d'autres moments. On a vu ça aussi dans les années 80 avec les référendums sur la souveraineté. Mais depuis ce temps-là, il y a eu évidemment le grand rêve du néolibéralisme, là, et, qui devait établir l'interdépendance égalitaire ou à peu près entre toutes les nations. Mais finalement, c'est pas ça du tout que ça a donné. Au contraire, ça a donné l'émergence de super-riches. Et puis, ça a mis tous les petits pays en interdépendance, envers les gros. Alors, le profit, bien sûr, il y en a eu un, mais encore une fois, c'est pour les riches, c'est pas pour l'ensemble de la société, je crois pas. Donc, depuis, je dirais, moi, 20 ans, plus de 20 ans, on est une société qui est tranquille, alors que on n'était pas habitué à ça. On s'était habitué à être une société où il y avait beaucoup d'énergie collective, qui était bien centrée sur des cibles bien définies. On trouve pas ça aujourd'hui. Ce que j'ajoute, c'est qu'une société qui manque d'énergie comme ça, c'est une société qui stagne, qui finit par reculer, si les autres continuent à avancer. Mmh. D'ailleurs, il y a justement un reportage dans la presse ce matin qui nous dit que notre société stagne économiquement, tandis que le reportage parle surtout de la productivité, qui ne monte pas chez nous, mais qui monte ailleurs. Et ça, ça produit de la richesse dans une société. Ça donne les moyens d'effectuer des changements, de faire des progrès, etc.
En fait, oui, c'est une série d'articles que la presse publie depuis dimanche, puis samedi, en fait, sur l'État-providence. Et c'est intéressant de voir ce que vous avez souligné, justement. J'aimerais vous amener sur une des valeurs dont vous avez parlé, qui s'appelle le pluralisme. C'est une valeur qui est très importante. En quoi ça consiste pour les gens qui ne connaissent pas le pluralisme?
Essentiellement, c'est le respect de la diversité.
Mm-hmm.
Et la diversité étant entendue à l'époque actuelle par l'arrivée des immigrants, l'arrivée de cultures qui sont différentes des nôtres. Et nous, notre charte établit l'égalité des droits entre tous les citoyens et toutes les citoyennes du Québec. Alors, c'est important d'avoir à ce que quelqu'un qui est différent de nous a quand même les mêmes droits et qu'il faut les respecter. On a quand même, moi je trouve que la valeur du pluralisme se porte plutôt bien, mais on a des progrès à faire. Hein. Oui. On a vu dans les journaux, par exemple, depuis 3 semaines, une couple d'épisodes où des gens, des employés des hôpitaux et d'autres milieux ont vraiment été coupables de racisme envers les Africains. Alors là, ça, on est contraire, c'est contraire au pluralisme. Là. Donc on a du devoir à faire encore sur ce plan-là. Mais on peut pas dire qu'on est en crise. Hein? Les immigrants trouvent quand même de l'emploi. Ils ont accès aux mêmes services que nous. Enfin, autant que possible, parce que là, il y a eu une immigration considérable des immigrants temporaires qui ont causé un engorgement. Mais je veux dire, on n'est pas en crise sur ce plan-là, pas du tout.
J'aimerais quand même vous parler de cette situation au niveau du racisme envers des immigrants d'origine africaine. Il y avait aussi cette fameuse école Bedford où il y a eu peut-être... un autre problème qui était des certains professeurs qui imposaient une certaine vue religieuse, ça aussi, pour vous, ça pose problème qu'il faut faire quelque chose?
Oui, ben, sauf que là, c'était pas vraiment du pluralisme.
Ouais.
C'était une minorité qui voulait imposer ses valeurs contre les nôtres. Mm-hmm. Moi, je trouve évidemment que c'est inacceptable. Et je trouve que le gouvernement doit intervenir très rapidement pour éviter que ces choses-là se reproduisent. Et que les coupables soient sanctionnés. Présentement, on n'est pas très sévère. Hein? Ils sont en congé payé depuis quelques mois et apparemment, ils vont demeurer quasiment pendant un an, là, parce que ça prend du temps avant d'arriver aux conclusions des enquêtes en cours. Donc, on ne peut pas dire qu'on est très méchant. Là, hein?
Oui. Bon.
Mais ce n'est pas nous là, qui avons manqué d'ouverture. On peut dire que c'est les profs musulmans qui étaient là, qui étaient des radicaux, en fait, et qui niaient nos valeurs. Pour essayer d'imposer les leurs, en fait.
Tout à fait. Aux États-Unis, on parle de melting pot, hein? On parle de cette espèce que moi, que je résume dans l'assimilation pure et simple, et puis les ghettos. Au Canada anglais, c'est le multiculturalisme où toutes les cultures se valent, et avec ça, ben, la cohésion sociale peut en prendre un rhume. Au Québec, on propose un autre modèle, puis c'est un modèle qui vous tient à cœur, l'interculturalisme. Ça consiste à quoi, finalement?
Là, c'est entre, je dirais que c'est un équilibre. C'est entre le melting pot, qui, vous avez raison de le dire, c'est une machine à assimiler. Chaque immigrant doit laisser sa culture à la frontière et puis adhérer à l'autre qui est là. Le multiculturalisme, c'est le contraire, il est à l'autre opposé. Là, le problème, c'est de maintenir une définition nationale qui convient à tous les citoyens. Mais on ne veut pas l'imposer aux cultures qui sont déjà en place. Alors le Canada, c'est un pays qui est assis sur des drôles de bases. Moi, ce que je vois dans l'interculturalisme, c'est un modèle qui est entre les deux, qui réalise un équilibre entre le besoin d'intégrer les immigrants, de protéger leurs droits, d'éviter de supprimer leur culture, mais en même temps, de voir à ce qu'il y a une intégration. On ne dit pas assimilation, on ne dit pas mosaïque, on parle d'intégration, ce qui veut dire que c'est un processus qui se fait dans la réciprocité. Les immigrants ont le droit de garder certains éléments de leur culture, par exemple leur religion, mais en même temps, ils sont invités à s'approprier des éléments de la nôtre. Et puis, il y a aussi, dans notre culture, des éléments qui ne sont pas une matière de choix. Les valeurs qui sont dans les chartes, c'est des valeurs qui s'imposent à tous les citoyens.
Hein?
Un immigrant qui ne peut pas choisir là-dessus, là. Il ne peut pas choisir d'écarter l'égalité homme-femme. Néanmoins, la charte est très bien parce que ça pose une frontière, mais autrement, il faut avoir un processus, encore une fois, qui est fondé sur la réciprocité et la bonne volonté. Alors, aider les immigrants à s'immigrer, à s'intégrer, mais en même temps, nourrir cette volonté-là chez les immigrants. Hein? Prendre des moyens pour que ça les intéresse de s'intégrer. Et ça se fait de façon informelle depuis un bon bout de temps, mais par des gens qui n'ont pas de moyens, qui font ça vraiment comme une sorte de bénévolat. Des professeurs, des employés de municipalité, c'est très très varié. Dans les écoles, par exemple. Mais il n'y a pas l'État là, qui établirait une marche à suivre, un plan de marche, si vous voulez. auquel chacun pourrait se référer pour en déduire comment il faut procéder, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter de faire.
D'ailleurs, vous avez écrit plusieurs de vos chroniques qui parlent un peu de ce, en fait, déplorent un peu cette inaction de la part des gouvernements successivement au Québec là, sur cette question-là. Alors, on peut juste imaginer, vous espérez qu'un jour, ils vont finir par écouter un peu et puis faire quelque chose. Hein?
Ben, regardez, en 1971, quand le premier ministre Trudeau a établi le multiculturalisme au Canada, le premier ministre Robert Bourassa a aussitôt écrit une lettre au premier ministre Trudeau pour lui dire qu'au Québec, on ne l'appliquerait pas, point final, parce que ça ne nous convenait pas. Et il avait parfaitement raison. Et à partir de là, Bourassa il a dit, on va élaborer nous-mêmes notre modèle. Et c'est ce que nous avons fait au Québec. C'est une réflexion qui est longue, là, qui s'est étendue sur plusieurs décennies, et puis qui est arrivée quand même à des choses très précises. Je veux dire, ce qu'il y avait dans notre rapport de la commission que j'ai co-présidé en 2007-2008, il y avait déjà là quelque chose qui était pas mal précis. Et après, moi, j'ai multiplié les interventions, mais je ne me suis jamais expliqué pourquoi est-ce que les gouvernements étaient rebelles, réfractaires, à adopter un modèle qui soit québécois et qui est l'interculturalisme. C'est là sur la place. Et ça recueille un appui très important dans la population. Bon, alors c'est pour ça que je me réjouis présentement que le ministre Roberge a eu le mandat non seulement de concevoir un modèle pour le Québec, mais très centré sur l'interculturalisme. Alors, on verra qu'est-ce que ça va donner, mais disons, je trouve que c'est bien parti, là. C'est pas parti exactement comme peut-être moi j'aurais voulu, mais c'est pas grave. C'est parti dans la bonne direction.
Bon. Il reste pas beaucoup de temps, mais j'aimerais quand même vous demander comment vous voyez l'avenir du Québec, surtout dans ce qui se passe depuis l'arrivée au pouvoir d'un certain Donald Trump au sud de la frontière.
Oui.
C'est une bonne question, puis je vous donne 2 minutes pour le faire.
Oui. C'est parce que c'est une question qui a eu beaucoup de réponses.
Oui.
Moi, je suis plutôt de l'avis. Je trouve que M. Legault, il va trop fort, d'abord. Il faut être prudent, là, présentement. Par exemple, les négociations de l'ALENA ne sont même pas encore commencées. Trump est extrêmement imprévisible. Il improvise tout. On ne sait pas quand est-ce qu'il va changer d'idée, ni dans quel sens. Moi, je suis plutôt d'accord avec Mme Freeland. Brûlons pas nos étapes, là. Attendons, mais préparons-nous. Préparons-nous à imposer des choses. Préparons-nous sérieusement. Pendant, dans le New York Times ce matin, Mme Freeland avait justement une colonne dans laquelle elle disait, elle proposait que les États de l'Occident pourraient travailler ensemble pour imposer un tarif de 100% sur les voitures Tesla. Alors, voilà un moyen qui ferait bouger
le
gouvernement américain.
Ça ferait mal au conseiller le plus proche de M. Trump. M. Bouchard, moi, j'aurais pu vous parler pendant une demi-heure de temps. J'ai lu avec beaucoup, beaucoup de plaisir Vision du Québec. C'est intéressant de relire ces chroniques, mais dans un autre classement. C'était vraiment, vraiment, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je vous remercie d'avoir participé à l'émission ce matin.
Ben, je vous en prie, ça m'a fait plaisir. Bonne chance à vous.
Merci. Je rappelle donc Vision du Québec de Gérard Bouchard. C'est publié aux éditions Somme Toute.